Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Florent lui demanda si c'était à cause de lui. « Partons, Marc, avant que le père, le frère ne s'en aperçoive. Il va nous tuer, tu sais. » « Et alors, qu'est-ce que ça peut nous faire? Ça n'a pas d'importance. »« Ça n'a aucune importance pour nous. Restons ici. » Demi-heure plus tard, on frappe à une porte qui s'ouvre. Un grand cri. Oh! Puis, le silence. Une demi-heure plus tard, dans la chambre de Nadine, Didier, assis à terre, en tailleur, le dos contre le mur, le visage fixe. Il se lève d'un bond, sort de la chambre. Longe au couloir. Descend les escaliers. Va dans le salon. Là, il prend sur le mur une carabine, l'ouvre. Charge la carabine de 2 balles. Marc et Florent sont debout dans la chambre. La porte s'ouvre d'un coup. Didier apparaît. Les jambes légèrement écartées et l'épaule, la carabine et vise. Sur le rebord de la fenêtre, qui était restée ouverte, un moineau vint se poser une seconde, puis s'envola. Son envol peint un paysage merveilleux. Un ciel bleu, sans nuages, en bas une magnifique vallée. De grands alpages verdoyants et un peu plus loin, une forêt à perte de vue. Il fait déjà chaud. Une belle journée commence. Retournons. Mais où se trouve le château? Tout a disparu. Que sont devenus Didier, Marc, Florent? Sont-ils morts? Vivants? Tiens, mon histoire se termine ainsi. Peut-être que j'aurais pu la continuer. Mais cela suffit pour moi et le lecteur. Je suis bien content qu'elle soit finie, parce que je commençais à en avoir assez de cette histoire. Et puis les personnages devenaient trop insupportables. Voilà, il ne me reste plus qu'à mettre le mot fin et à aller me coucher. Bonsoir.
faire cette émission.
C'est une émission qui a été faite d'après un très ancien écrit. Et à cette époque-là, j'écrivais d'une façon très petite. Mes lettres étaient très petites et sur du papier qui a vieilli. L'encre aussi s'est effacée. J'ai eu beaucoup de peine à lire ce que j'ai écrit. Alors j'étais obligé, c'est de lire ça avec une loupe, sous une lampe. Ce qui fait que j'étais sur ma table de mixage avec tous mes potentiomètres à manœuvrer. J'avais 3-4 potentiomètres à manœuvrer d'une main, à changer les bruits et la musique. Et en plus de ça, il fallait que je tienne de l'autre main ma loupe pour pouvoir arriver à lire sous une lampe. J'ai eu beaucoup de peine et beaucoup de difficultés à pouvoir le faire, et je crains que malheureusement je ne suis pas aussi bien, arrivé. Cette histoire était d'abord une petite histoire écrite comme ça, avant que je fasse de la radio. Elle n'était pas faite pour la radio. Ensuite j'en ai fait une version pour la radio, mais cette version qui était très vieille, je n'ai pas pu vous la passer parce qu'elle était beaucoup trop ancienne. J'étais obligé, c'est de la refaire, c'est ce que j'ai fait. J'aime bien cette petite histoire qui est une de mes premières. Je venais d'avoir une longue dépression très pénible à cause d'un chagrin d'amour, et oui. Et pour me guérir, j'ai sublimé ce qui m'était arrivé. Ça, c'est un bon remède pour guérir. Sublimer vos peines, vos souffrances, ce qui vous a fait souffrir. Dans toutes mes histoires, je mets beaucoup de choses que j'ai connues, des gens que j'ai connus. Bien entendu, je sublime ce qui est arrivé et je change les noms des personnages. Mais c'est beaucoup de choses qui me sont arrivées. Bonsoir. Même pour les histoires qui sont un peu, disons, farfelues et tout à fait irréelles. N'oubliez pas, c'est que les histoires, même fantastiques, ont une base réelle, même les contes de fées. Troisième époque entre la lune et moi, les illusionnistes. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.
Deuxième époque, entre la lune et moi. Les illusionnistes. Préliminaire de la deuxième époque. Est-ce que tu sais pourquoi il nous a convoqués?
Non.
Et dire que je devais aller en Floride.
Pfff. Que nous veut-il?
Cette histoire ne va pas recommencer.
Tourne-toi. Montre-moi comment tu es habillée. Comme tu es belle, Nadine.
Merci, Marc. Toi aussi, t'es pas mal avec ton costume beige.
C'était pour aller en Floride?
Oui.
Tu devais y aller seule?
Non, je devais y aller avec mademoiselle de Haute-Corps.
Et puis, cette convocation, je me demande bien ce que je fous ici.
Tout de même, il pourrait bien nous laisser tranquilles.
J'ai droit aux mêmes vacances, moi aussi.
Savoir ce qu'il va nous faire, cette fois-ci.
Il est tellement bizarre, avec des idées biscornues.
Et puis, zut, je veux vivre ma vie, moi.
Marc, arrête de tourner en rond, tu fatigues.
Oh, toi bien sûr, Didier.
Quoi, moi, Didier? Tu crois que ça m'amuse d'être ici?
Moi aussi, j'ai mes affaires. J'ai ma vie privée.
Et puis, pour ce qu'ils nous donnent, en tout cas, moi, je peux pas
me payer un voyage en Floride.
Pour combien de temps allons-nous être à sa merci?
Moi, j'ai autre chose à faire.
J'ai une maison à tenir. Je reçois beaucoup. Il oublie, c'est que je suis la femme de monsieur de Haute-Bord. Je commence à en avoir assez. Je suis tout de même pas une gamine que l'on vient chercher comme ça pour jouer aux grandes personnes.
Mais que faites-vous, Marc? Que cherchez-vous dans ce buffet Henri III?
Figurez-vous, c'est que je cherche à boire, moi. Car j'ai soif.
Vous savez très bien que c'est qu'il ne boit que de l'eau.
Oui, je sais, Florence.
Il ne boit que de l'eau.
Et son écriture est fade.
Elle est comme l'eau, fade et sans goût.
Fade et sans goût.
Et puis, pour ce qui est de ses idées,
la mort, la mort, la mort.
Bien entendu, auréolé de noblesse, de grandeur, sans oublier le devoir.
Chaque fois que je l'entends, j'ai l'impression que c'est d'écouter un jésuite.
Il voit les choses tellement austères, tellement rigides.
Sa vie, il l'a fait à l'image de ses idées. Tiens.
Faut voir comment il vit et ce qu'il est.
Il n'y a qu'à regarder ce qui nous entoure. C'est beau, soigné, c'est rigide, le tout enveloppé de beaucoup de goût. Mais c'est d'un froid, d'un austère. On dirait qu'il vit dans un musée. Sa vie, c'est comme le décor de cet appartement.
Une fantaisie, rien.
Tout doit être dans règle.
Je me demande comment il doit faire l'amour.
Vous devriez avoir honte de dire des choses pareilles. Lui qui a écrit de ses yeux lissous sur les sentiments. Et vous oubliez les violeurs d'âme, les souffrances de l'âme. Il n'aurait jamais pu écrire tout ceci sans avoir lui-même ressenti, au fond de lui-même, de son être. On ne parle pas de l'amour sans l'avoir connu. Vous avez peut-être raison, monsieur de Hautebord. J'ai peut-être été un peu trop loin. Oui, bien sûr. Il a dû et a aimé. Mais de quelle façon, si vous saviez? Par hasard, un jour, j'ai eu entre mes mains une lettre dite d'amour qu'il avait écrite. Et je dois vous dire que ce n'était pas très beau. C'était même d'un bas, si vous saviez, que m'y s'humiliait. Taisez-vous, n'avez-vous pas honte? Non seulement vous lisez les lettres qui ne vous sont pas adressées, mais en plus vous dévoilez au public leur contenu. C'est d'un bas, c'est ignoble ce que vous faites là, monsieur. Le courrier, c'est sacré. Si une lettre que vous ne vous est pas adressée, vous ne devez en aucun cas la lire. Faire ce que vous venez de faire démontre que vous êtes l'être le plus bas qui soit. De Jean-Jules n'allait pas trop loin. Cette lettre se trouvait dans le cahier qu'il m'avait donné pour que je puisse apprendre mon rôle. Elle était cachetée, mais il n'y avait rien d'inscrit dessus l'enveloppe. Alors j'ai cru que c'était pour moi. Une porte s'ouvre. Viens, avec un bar roulant, Martin.
Vous l'avez convoqué vous aussi, Martin?
Oui, madame de Hautebord, et j'en suis très heureux que monsieur m'ait rappelé.
Vous êtes le seul à...
Oui, je sais, monsieur Marc, vous parliez très fort.
Mais où est Charles?
Monsieur Didier ne sait pas. Monsieur Charles est tombé grandement malade. Nous ne savons pas si nous pourrons l'avoir. Bon, eh bien, messieurs, messieurs, dames, désirez-vous boire quelque chose?
Martin, c'est beau, c'est fin, c'est délicat. On dirait que les airs nous filent entre les doigts. On dirait de l'eau. Et pourtant, à certains instants, on ressent comme une angoisse. Quelque chose qui vous prend à la gorge et au corps, l'impression de ressentir une grande peine. Écoutez comme la musique monte et petit à petit d'une façon pesante, comme une personne en peine. Qui se souviendrait de joie, la joie de se souvenir, se réenvoler par ses peines présentes.
Chacun se souvient de certaines joies. Écoutez, ce paradis perdu. Là, Martin. Là, oui, monsieur. Comment sont-ils? Pas très heureux d'être ici, monsieur. Ils appelleront lorsque la symphonie sera finie. Je m'enfonce dans mon fauteuil et ferme les yeux pour ne pas voir le jour. Je veux me baigner dans la musique. Martin me laisse seul. La symphonie vient de s'achever. Je ne bouge pas pendant quelques minutes. Je suis sous l'enchantement de la musique. Puis, je me lève pour ranger mes disques. Après, je vais à la fenêtre
La vue donne sur un grand parc à l'anglaise avec de grandes pelouses vertes et de magnifiques arbres centenaires. J'ouvre la fenêtre. Pour prendre un peu d'air frais, je me dis la terre est belle, la plus grande, forte, la plus grande sensation que l'homme puisse avoir vient de la nature. Alors pourquoi l'homme n'est-il pas heureux? Le malheur de l'homme vient de l'homme. Parce qu'il est de la nature, l'homme pourrait être comme la nature, splendide, éblouissant. Son malheur vient à ce qu'il ne sait pas se laisser guider. Il a voulu guider. Je dois me mettre au travail maintenant. Je vais sonner Martin pour qu'il fasse entrer mes personnages. Allez, c'est le temps de se mettre au travail. Messieurs, mesdames, entrez, je vous en prie. Nadine, que vous avez une belle robe.
Ah, vous trouvez?
Oui, vous êtes ravissante.
Et moi, comment me trouvez-vous?
Vous, madame de Hautebord, vous êtes toujours aussi éblouissante. Quel tailleur!
De chez Chanel, mon cher.
Et nous, les hommes, n'avons pas droit vos compliments? Oh, Didier, bien sûr. Vous avez très bonne mine et splendide. Et regardez-moi, Marc, quelle classe, quelle élégance. Montrez-vous un peu. Marc se montre en faisant le mannequin. Tous le regardent et applaudissent. Marc dit en riant, « Costume cardin de voyage, car je devais aller en Floride. » « Asseyez-vous, je vous en prie. » Et ils s'assoient tous devant le bureau. Je vous ai convoqué parce que il faudrait c'est que vous puissiez m'aider. Je dois écrire un roman, ou plutôt je suis obligé d'en écrire un. Et puis voici, depuis quelques jours, j'ai des difficultés à entreprendre ce travail. Je n'y arrive pas, car je n'ai pas eu le temps de me déshabituer à vous. Alors je me suis dit que si je prenais les mêmes personnages, que j'avais eu pour mon livre Au-delà du commun, cela pourrait m'aider. Mon travail serait facilité. Je n'aurais pas à décrire de nouveaux personnages puisque les gens vous connaisseraient déjà physiquement. Et que s'ils ne vous connaissent pas, ils achèteraient Au-delà du commun pour vous connaître. Cela m'aiderait aussi pour la création. Je travaillerai sur des personnages que je connais déjà. Voilà. Florent lève le bras pour me demander la parole. Pour demander la parole, je la lui donne. Est-ce que nos rôles seront les mêmes que ceux que nous avons eus dans lire les livres « L'au-delà du commun ». Vous serez les mêmes physiquement, mais vous ne serez pas du tout pareil. Même, vous changerez de nom. Alors, comment les gens vont nous reconnaître? Bonne question, monsieur de Janju. Avant que ne commence l'histoire, il y aura un chapitre qui s'appellera « Préliminaire » et qui relatera cette matinée. Il sera dit « Tout ce que nous avons dit est fait ». Comme ceci, d'une façon agréable, le lecteur sera informé des dispositifs pris pour mettre en œuvre l'histoire. Et nous, le sujet de ce roman. Voici Madame de Hautebord. Puisque le lecteur nous écoute, pour ainsi dire, nous ne ferons qu'un résumé grossier de l'histoire, car il faut que le lecteur trouve quelques surprises dans sa lecture. Alors, c'est l'histoire d'un groupe familial formé d'hommes, de femmes. Ces gens-là ont décidé, c'est d'être heureux. Et, pour être heureux, de prendre comme ligne de conduite, pour arriver à leur fin, de ne pas voir le malheur des autres et de ne voir que ce qui les concerne. Ils ont réglé leur sens, leurs sentiments, que pour des choses, leurs choses propres. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Tout ceci se passe dans une villa magnifique qui se trouve au fond d'un parc, terrasse, grand bois, grande baie vitrée, escalier de marbre. La villa est blanche extérieurement et les murs intérieurs aussi. Il vous faut vous habiller chez Guy Laroche. Ah, voilà, j'oubliais de vous dire, c'est que l'ambiance du livre sera chaude, lourde, plate. Il ne se passera pas grand-chose. Et les scènes seront longues, très longues. Le lecteur devra sentir une ambiance feutrée, lourde, où les personnages seront comme fondus dans leur atmosphère, seront dans l'ambiance de leur vie. Mais attention, ils ne seront pas froids, ne s'ennuieront jamais, même lorsqu'ils ne feront rien. Bien, voilà. Maintenant, je vais vous donner vos rôles. Marc, vous serez Patrick. Vous êtes le fils malade, rôle très ingrat. Pardonnez-moi, mais j'aimerais savoir combien de temps cela va-t-il me prendre et j'aimerais bien savoir aussi combien vous allez nous donner. Marc, pour ce qui est du temps, cela vous prendra le double de ce que vous avez pris pour l'au-delà du commun. Et pour ce qui est du salaire, je ne peux vous donner malheureusement que le double que ce que vous avez eu. Je ne veux pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord. Je vais aller en Floride et vous allez m'accaparer mon temps pour plusieurs mois. Et pour un salaire de misère. Non, je ne marche pas. Je refuse ma liberté. Je ne peux pas vous la donner. Du moment que vous êtes rentré dans mon cerveau, je ne peux vous en faire sortir, et vous pouvez en sortir. Cela ne dépend pas de moi, vous le savez bien. Pour ce qui est du salaire, je vous donnerai à tous un petit quelque chose en plus si le livre se vend bien. Or, vous vous appellerez Hélène. Vous serez la mère de Patrick. Monsieur de Janju, vous êtes Eric. Et vous êtes le père de Patrick. Monsieur de Hautebord, vous êtes le frère Eric. Votre nom, c'est Alexandre. Le frère d'Eric, votre nom, c'est Alexandre. Monsieur Didier, vous êtes Achille. Et vous êtes le frère de Patrick. Vous êtes la femme de Patrick. Et votre nom est Flore. Martin, vous restez Martin, ce qui donnera un intermédiaire entre les deux histoires, intermédiaire qui n'existe pas dans l'histoire. Florent, vous serez Godefroy, un personnage à part, avec d'autres nouveaux personnages qui seront aussi à part. Un rôle de seconde zone, de second ordre. Non, Florent, un rôle à part, vous verrez. Quant à Charles, si sa santé le permet, il aura un rôle surprise. Voilà, maintenant je vais définir vos rôles. Il faut que le lecteur se retire, car il ne faut pas qu'il sache d'avance ce que vous allez devenir, puisque c'est toute l'histoire. Alors, cher lecteur, pour ton plaisir, je te prierai de bien vouloir te retirer quelques instants. Surtout, ne crains rien, je reviendrai te chercher. Voilà, je suis seul. Ils sont partis. Tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à développer mon histoire. J'ai rassemblé mes notes sur mon secrétaire avec un cahier neuf. Je sais pourquoi, mais chaque fois que je dois écrire, cela m'excite, m'angoisse. J'ai chaud. J'ai comme de la fièvre. Je tourne en rond pendant au moins une heure avant de commencer à écrire. J'ai la tête vide, où je trouve que mes idées que je dois développer ne valent rien. Enfin, je me mets à mon travail. Je ne sais plus ce que je dois écrire, alors que par miracle, je mets ma machine à écrire, et malgré moi, je me mets à écrire. Les idées me reviennent, les mots, les phrases défilent, tellement vite que j'ai de la peine à les retenir pour les écrire. J'écris de plus en plus vite, pour ne rien perdre. Je n'ai pas de mes mots, de mes phrases. Je suis en sueur, la tête en feu. J'ai même arrêté d'écrire, mais je ne peux pas. Tant que je n'ai pas fait ce que je dois écrire. Tant que mes idées défilent, je ne peux pas m'arrêter. J'ai fini pour aujourd'hui. Je compte le nombre de pages que j'ai écrites. Je relis ce que j'ai écrit. Cela me donne mal à la tête. Je le relis très vite. Je suis fatigué. Je suis en sueur, angoissé. J'ai ni faim ni soif. J'ai envie de marcher, de faire le vide dans ma tête. Enfin, je range mes papiers et je me mets à marcher dans la pièce. En pensant le moins possible. Et malgré moi, après une demi-heure de marche, je reprends mes cahiers. Je relis ce que j'ai écrit. J'y rajoute des mots, des phrases. Je remets mes cahiers en place jusqu'au lendemain matin. Mais durant toute la journée, sur des morceaux de papier, j'écris mes idées qui me viennent et qui serviront à mon livre. Chaque fois que j'ai une idée, je la marque. À la fin de la journée, mes poches sont pleines de petits papiers. Voilà, le préliminaire est fini. Il faut que je mette à ma tâche. Ce sera long cette fois. Long. et très lourd. Quel est ce besoin qui me force à écrire pour cette envie qui est pour moi comme une envie physique, presque sexuelle? Pourquoi ce besoin de m'exprimer, d'expliquer ce que je ressens, vois, entends? La réponse est peut-être que pour moi c'est vital d'écrire. Cela me permet d'être moi-même et de m'isoler de cette vie qui n'est pas la mienne et qui ne le sera jamais. La vie que je mène est tout le contraire de moi. Je n'aime ni la vie que je mène, ni ce que je suis. Non, je ne suis pas cet être médiocre, sans présent ni lendemain. Mon vrai moi est au fond de moi-même. Pas moi qui suis mis au fond de moi-même, mais ce sont les autres. Ils m'ont pris malgré moi. J'écris, c'est pour pouvoir expliquer, exprimer ce que je suis vraiment. Car ce que vous voyez en moi n'est pas vraiment moi. Cette musique, c'est vraiment ce que je ressens à l'intérieur de moi-même. Une grande mélancolie, un bouillonnement terrible. Cette année, j'ai écrit 19 idées philosophiques, 4 nouvelles, 3 romans et 11 douleurs de l'âme. Aujourd'hui, je commence mon 4e roman, le 5-9-1982. Fin des préliminaires des illusionnistes. Thank you.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène, Julien Jean-Pierre.